Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens, avec les Don Quichotte d'aujourd'hui.
En direct du studio 511, une émission cuisinée épicée par le chief Jérôme Chélius, assisté de Lucille Valérie, avec Raphaël Rousseau à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, deux histoires de lutte. À Bernac d'abord, en Charente, nous irons à la rencontre de Paul François, un agriculteur qui se bat contre le géant de l'agrochimie Monsanto et qui a déjà remporté deux victoires. Mais la bataille continue. Et la bataille continue aussi à Calais, pour ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Alors que les politiques d'accueil se durcissent, les bénévoles de la Refugee Community Kitchen, eux, servent des repas chauds. Car on ne peut rien faire, le ventre vide.
Ça fait partie des kitchens de la jungle qui sont installés très vite après avril 2015. Notamment Refugee Community Kitchen, il y avait la Belgian Kitchen, il y avait l'English Kitchen.
Monsanto, je pense qu'au départ de la procédure, il devait jouer aux fléchettes avec ma photo dans les bureaux en disant « c'est pas ce petit paysan à Bernac qui va nous enquiquiner ». Ils n'ont pas jamais parlé de vraiment d'acheter mon silence. Ils disaient « on peut s'arranger ». C'est pour dire qu'il y a certainement beaucoup d'affaires qui ont été étouffées aussi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, que pendant que les premiers de cordée mènent l'ascension, les autres attendent toujours le ruissellement de la richesse des plus riches, qu'il aurait promis depuis des décennies. Alors avec la fin d'année qui s'approche, pas de doute que comme chaque fois, les incantations à la solidarité et les incitations aux bonnes actions défiscalisées vont se multiplier. Comme M. Castaner par exemple, qui lance un appel aux dons pour La République En Marche.
Alors même que selon les échos, le parti présidentiel devrait toucher plus de 100 millions d'euros de dotations publiques sur l'ensemble du quinquennat.
Oubliez donc les étrennes pour les fainéants, aidez les gagnants. Ou encore les victimes de discrimination bancaire, vous avez peut-être raté cette supplique il y a quelques jours.
Cher compatriote, en prêtant au Front National, vous obtiendrez 3% d'intérêt, une rémunération exceptionnelle pour un placement sans risque, pour permettre au Front National de faire face à cette véritable fatwa bancaire. Au nom du Front National, mais encore davantage, au nom du pluralisme et de la sauvegarde de la démocratie, merci du fond du cœur pour le soutien que vous pourrez nous apporter.
On ignore encore si les appels à la solidarité souchienne, terme qui semble-t-il passe très bien à l'Académie française de Madame Le Pen, seront exaucés, mais ses idées politiques, elles, semblent bel et bien entendues. Pour preuve, les dernières consignes de Gérard Collomb pour expulser massivement migrants et réfugiés.
Plus une circulaire ministérielle qui met fin au principe de l'hébergement inconditionnel.
Pas de toit pour les migrants donc, mais heureusement, certains sont là pour leur faire au moins à manger. Et Antoine Yallé est retrouvé à Calais pour la suite de sa série de reportages sur les cantines politiques et solidaires.
Après la cantine des Pyrénées à prix libre dans le 20e arrondissement de Paris, c'est à la Refugee Community Kitchen qu'on va aller manger. Plus d'un million de repas servis aux migrants depuis 2 ans par des volunteers, véritable Don Quichotte de la Manche anglo-saxon. L'occasion aussi d'évoquer le durcissement de la politique d'accueil en France et la chasse aux Dublinés qui peuvent malgré tout manger chaud dans le froid de Calais.
Servir plus que des repas et pas de la malbouffe, c'est justement à l'autre bout de la chaîne alimentaire où va nous emmener Charlotte. Avec la lutte d'un agriculteur contre la multinationale Monsanto.
Oui, c'est un combat judiciaire qui dure depuis plus de 10 ans. Celui d'un agriculteur charentais, Paul François, qui se bat contre le géant de l'agrochimie Monsanto. Vous en avez probablement déjà entendu parler car ces deux victoires devant les tribunaux avaient fait grand bruit. Mais la bataille continue. Intoxiqué en 2004 au Lasso, un puissant herbicide fabriqué par la firme américaine et interdit en France depuis, Paul François se bat aujourd'hui au nom de tous les agriculteurs qui sont les première victime de l'usage intensif des pesticides. Cancer, maladies neurodégénératives, troubles cognitifs, la liste est longue car la France agricole est accro aux produits chimiques. 60 000 tonnes de pesticides sont épandues chaque année dans nos campagnes, ce qui fait de la France le premier consommateur européen de produits phytosanitaires dont le principal fournisseur est Monsanto bien sûr. Et bien que leur toxicité ait été prouvée à maintes reprises par les chercheurs, cela n'a pas empêché la Commission européenne de renouveler le 12 décembre dernier l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, principe actif du Roundup, pourtant classé cancérogène probable par l'OMS en 2015. Paul François, lui aussi, était accro aux pesticides. Jusqu'à ce jour d'avril 2004 où sa vie a basculé et c'est cette histoire qui va nous raconter l'histoire d'un repenti et d'un combat pour dénoncer ce nouveau scandale sanitaire.
Jusqu'à 17h sur France Inter, aux frontières et dans la terre, comme un bruit qui court, avec ceux qui refusent de se laisser faire.
Sur le soja et le maïs, pour désherber avant ou après le semis, il n'y a pas 36 solutions. C'est l'assaut et c'est rentable.
Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le désherbant 100% biodégradable.
L'assaut de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre.
Roundup, désherbé intelligent.
Ils sont utilisés au quotidien par les agriculteurs.
Ce sont des herbicides, voilà. Là, ce sont des fongicides et une petite partie d'insecticides.
Pourquoi ce pesticide est-il autant utilisé?
C'est une molécule du Roundup, l'herbicide réputé très efficace de la firme Monsanto. Depuis 40 ans, il est plébiscité par les agriculteurs. 8000 tonnes utilisées notamment en France chaque année, malgré les critiques sur sa dangerosité.
Ça ne vous inquiète pas d'être obligé d'utiliser toujours des produits chimiques?
Si, un peu, mais c'est obligatoire pour nous si on veut vendre.
Les consommateurs absorbent de plus en plus de résidus.
Les pesticides peuvent être la cause de cancer chez l'homme.
Première en France, le géant américain des pesticides Monsanto, condamné par la justice.
Responsable de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français.
Ils ont beau être puissants, il n'y a pas de raison, il faut porter plainte contre eux. Alors oui, c'était de la folie de le faire, mais je disais, moi si je me trompe dans mes décisions d'entreprise, je dois les assumer. Et je ne me voyais pas être capable d'empoisonner des gens pour gagner ma vie.
Oh, bravo, oui, qui coule.
Guy Vontine. Charles Péri. Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
Oui, c'est un problème important que celui des produits chimiques qui, de plus en plus souvent, sont ajoutés à notre alimentation. Tout le monde en parle, mais comme c'est difficile d'y voir clair.
Le pain et le vin de l'an 2000.
Pour certains, notre nourriture quotidienne est à ce point trafiquée que nous nous empoisonnons lentement tous les jours.
Un documentaire de 1964.
Les industriels de l'alimentation protestent et affirment qu'il n'en est rien et que leurs produits sont sans danger. Qui faut-il croire? Nous nous méfions même d'aliments aussi essentiels et aussi simples que la viande, les œufs, le pain ou le vin. Sont-ils vraiment devenus dangereux à consommer parce qu'ils contiennent trop de produits chimiques toxiques? La protection contre les risques provenant de l'industrialisation des aliments est-elle efficace? Nous allons essayer de répondre à ces questions.
Et un peu plus tard que 17h, on est à Bernac, dans le nord de la Charente, quelques kilomètres de Ruffec. Et on est sur l'exploitation de Paul François, l'agriculteur célèbre pour avoir attaqué Monsanto en justice, il y a de ça 10 ans. C'est une grande ferme, organisé autour d'une cour avec des bâtiments agricoles.
Oh merde.
Il vient de se mettre à pleuvoir.
Merde. Bon, on va y aller, hein. On peut passer par le bâtiment calmé, on sera à l'abri.
Traverser une cour, il y a des tracteurs partout. Ah, il y en a un paquet de d'engins agricoles.
Ici, c'est une exploitation céréalière donc assez importante. Hein. Notre exploitation fait 240 hectares. Il y en a 105 en bio et 135 en conventionnel, sur lequel on utilise encore un peu de chimie. Le but est que tout soit à 100% en bio dans quelques années. Mais sur la partie où on utilise encore de la chimie, tous les produits qui nous ont semblé les plus dangereux, on les a supprimés. Le glyphosate, on n'en utilise plus sur cette partie, par exemple. Donc on utilise de la chimie de façon réfléchie. C'est-à-dire que quand on a tout essayé au niveau agronomie et qu'on n'a pas d'autre solution, on utilise de la chimie. Mais on n'en utilise vraiment plus beaucoup et tant qu'à faire, autant le valoriser en bio et franchir le pas. Mais le bio est tellement difficile en termes de technique et 240 hectares en bio, c'est quand même, enfin surtout pour quelqu'un comme moi qui a été formaté sur le système des pesticides, bon, il faut réacquérir des connaissances, donc on se donne un peu de temps. Et puis, peut-être que s'il n'y avait pas une partie bio, il y aurait moins de matériel. C'est-à-dire qu'on remplace de la chimie par de la mécanique. Là-bas, on voit deux bineuses. Alors, les bineuses, c'est pour enlever les herbes concurrentielles dans le maïs ou le tournesol.
C'est la rouge, là-bas?
Voilà, la rouge, là-bas, elle a été même fabriquée par Cyril et Yannick cet hiver. Ah. Voilà, on l'a fait spécifique pour faire nos tournesols. Donc, tous ces outils, par exemple, si on utilisait du glyphosate, on n'aurait pas ces bineuses parce qu'on aurait du nettoyage des mauvaises herbes avec de la chimie. Moi, je dis à mes collègues agriculteurs, s'il est dangereux, on n'a pas fait ce métier pour utiliser des produits toxiques qui empoisonnent. Ce n'est pas forcément que des écolos bobos qui veulent nous emmerder. C'est un constat. Comment on fait pour se passer de ces produits qui ont empoisonné et qui vont continuer d'empoisonner? Les bio se passent de glyphosate et des agriculteurs qui ne sont pas en bio ont fait le choix pour certains de ne plus utiliser de glyphosate. Voilà, ça existe. Simplement, vous touchez à un modèle agricole qui rapporte énormément d'argent aux firmes qui le fabriquent. Que ce soit un débat de notre société, comment on fait?
En 20 ans, dans le Gers, le nombre d'agriculteurs bio a été multiplié par 10.
En Picardie, le nombre d'exploitations bio a été multiplié par 3 en 15 ans.
D'ici 2020, le Gers espère avoir 20% de ses surfaces agricoles en bioculture.
L'Occitanie est la première région agricole bio de France.
Une chasse aux sorcières, c'est le ressenti des fabricants de pesticides. Il n'existe pas de meilleure alternative au glyphosate comme désherbant, affirme le président de l'Union des industries de la protection des plantes, l'UIPP, Nicolas Kerfan.
Moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas de solution à apporter, en tout cas qui soit aussi efficace, au même niveau de prix, avec la même facilité d'utilisation que le glyphosate à ce stade.
Mais l'agriculture conventionnelle garde encore tout son poids. Les Hauts-de-France restent la région où l'on trouve le moins de surface cultivée en bio.
Il y a 4 énormes tracteurs rouges.
Ouais, oui, je ne sais pas s'ils sont énormes, celui-là il est énorme, oui.
Ici, vous êtes installé quand sur cette exploitation?
Moi, ici, je suis arrivé ici en 89. Mes parents, ils sont arrivés ici dans la région, là, en Charente, ils sont arrivés en 1952. Et ils n'avaient pas un hectare de terre. Et papa a tout construit à partir de rien. Il a fait partie de ceux qui ont développé les FDSEA, les Fédérations départementales des exploitations agricoles. Et après, il avait même des responsabilités au niveau national, administrateur du lycée agricole et catholique. Au niveau syndical et associatif, il était très engagé.
On est derrière une machine qui est tellement immense que j'arrive même pas à voir le haut, le toit. Avec des pneus qui sont aussi hauts que moi, quoi, 1m70 quasiment.
C'est pas des machines qui m'appartiennent. Hein. C'est deux machines qui nous servent à récolter, on fait des haricots verts en bio. Je vous dis pas que ça sort en boîte de conserve à l'autre bout, mais c'est impressionnant comment c'est capable de récolter. Et là, ils ont récolté 65 tonnes de haricots en même pas 2 jours. Par contre, ça vaut quand même 600 000 euros. Donc, il faut ramasser quelques tonnes de haricots verts pour amortir. Alors, nous, on ne pourrait surtout pas se permettre d'avoir ce type de matériel pour nous. Hein. Ça ne serait pas amortissable. Mais je comprends votre image. Et puis, moi, j'ai eu la même. Mais le bio n'est pas forcément synonyme que d'un travail manuel. Il y a du travail manuel, on en a besoin. Mais on a besoin de modernité aussi. C'est pas incompatible, hein, au contraire.
Et votre sulfateuse, alors, elle est où?
La sulfateuse, on est passé à côté tout à l'heure. C'est ça, c'est cet appareil qui nous sert à. Et puis c'est avec celui-là, avec lequel je m'étais intoxiqué. Il y a une rampe de 30 mètres de large qui se déplie dans les champs et ça épand les produits phytosanitaires. Mais j'aime pas trop rester à côté de ce machin. C'était un bon souvenir à l'époque où je travaillais avec, mais depuis que je me suis intoxiqué, voilà. Puis là, il fait pas très chaud en plus, donc.
On va rentrer, puis on va parler de tout ça au chaud.
Of all the veggies in the land, the best are from the farm fresh stand. So come along and lend a hand for keeping it pesticide free.
Keeping it
pesticide free.
Ah, oui.
So scoop off my foot.
Il est reparti, Pierre-Guy.
Don't messy with my veggies. For me and thee and the honeybee, we're keeping it pesticide free.
Là, c'est votre maison.
Ça, c'est ma maison d'habitation. Et ça, c'est le bureau et le local professionnel qui sert aussi de siège pour l'association
Phytovictimes.
Pour Phytovictimes.
Okay, all you happy fruits and veggies out there, patch your carrot tops, blink those potato eyes, wiggle your corn ears, shake your cabbage heads. All right.
On rentre, on va se mettre au chaud.
Génial, hein?
Ah, ouais.
On va commencer par le début, par ce dont on parlait tout à l'heure à côté de la sulfateuse. Mmh. Ce qui s'est passé, donc, c'était le 27 avril 2004.
Oui. C'est lors d'une vérification, je dirais, banale de nettoyage de cuve, c'est-à-dire que la cuve embarquée sur le pulvérisateur, le cas là, c'était un herbicide du Lasso, un mélange d'alachlore et de monochlorobenzène. C'était un produit spécifique au désherbage du maïs. En aucun cas, ce produit pouvait être épandu sur du colza, et la nuit qui suivait, je devais faire un fongicide ou un insecticide, je ne me souviens plus. Mais en tous les cas, il fallait surtout pas qu'il y ait de résidus. Donc les cuves doivent être propres. Et en voulant vérifier le nettoyage de cette cuve, il s'avère qu'il était resté du produit. Il faisait très chaud ce jour-là. Et quand j'ai ouvert la cuve pour vérifier, le résidu était devenu un gaz. Et j'ai inhalé ce gaz qui a entraîné à l'instant une sensation de brûlure sur tout le corps, en le respirant, et après, je suis rentré chez moi, j'ai expliqué à ma femme ce qui s'était passé, elle était en RTT ce jour-là, et heureusement, et elle est surtout infirmière. Et elle a eu les bons réflexes de m'emmener à l'hôpital, nous sommes à 5 minutes d'un centre hospitalier, donc j'étais en insuffisance respiratoire, j'avais perdu connaissance, moi, ça je m'en souviens pas du tout, hein. Ça m'a été rapporté par ma femme, les médecins. Je suis resté, je me rappelle plus, je crois que c'est 2 jours à l'hôpital, je suis rentré chez moi, les médecins m'ont expliqué que tout allait rentrer dans l'ordre. Et j'ai repris mon activité un mois après. Et bon, j'étais très fatigué, j'avais des problèmes de locution. Mais bon, comme tout devait rentrer dans l'ordre, quoi, j'ai repris mon travail.
Les agriculteurs, les exploitants qui ont manipulé ces substances pendant des années, alors que les normes étaient beaucoup moins sévères, eh bien, il faut savoir que leur taux de cancer est 2 fois plus élevé que la moyenne.
Cancer du sang, du cerveau, maladie de Parkinson ou stérilité, de nombreuses études évoquent les liens entre ces maladies et les pesticides. Et pour certains cancers, le risque serait multiplié par 2 en milieu agricole.
Dernier scanner.
Oh, bruit qui coule !
À partir de là, c'est un périple hospitalier de 5 mois.
Pour trouver ce que vous aviez.
Pour trouver, pour identifier d'où venaient ces problèmes, parce que le lien n'a pas été fait aussitôt, et quand à chaque fois que mon épouse, on faisait allusion à l'intoxication du 27 avril, on nous disait que non, vu le produit que j'avais respiré, ça ne pouvait pas provoquer ce genre de problème. C'est surtout la ténacité de Sylvie, ma femme, chercher, parce qu'elle voyait bien que je risquais de perdre la vie. De fil en aiguille, elle avait été mise en relation avec un chercheur du CNRS, André Picot, et avant Francis Rocchicelli, qui lui travaillait à l'INSERM. Et ces deux chercheurs, eux, ont imaginé que ça pouvait quand même être ce produit que j'avais respiré qui était la cause. À partir de là, ils ont fait un travail important, à savoir faire analyser déjà le produit que j'avais respiré. Et à partir de ces analyses, ils ont dit « Ah mais là, il y a des questions à se poser ». Il serait bien que l'on effectue des analyses de sang et d'urine quand Paul François fait des comas, parce que le problème, c'est que je suis tombé dans le coma brutalement. Ça n'a pas été sans mal. Il a fallu quand même que ma femme se batte auprès des médecins pour obtenir ces analyses.
Il ne voulait pas les faire.
Il ne voulait pas les faire parce que ce n'était pas possible qu'il y ait un problème, donc il ne pouvait pas les faire. Il ne voulait pas les faire. Donc ils les ont fini par les faire, et à partir de là, quand il y a eu les résultats, ça paraissait incompréhensible. Parce que normalement, 8 mois après ou 9 mois après, ces produits auraient dû disparaître de mon organisme. Et André Picot, très vite, a dit ben, « Les symptômes ressemblent bien à une intoxication au monochlorobenzène. » Il dit « C'est vrai que dans le temps, je ne me l'explique pas. Il aurait dû ne plus être présent dans mon corps. » Et c'est pour ça d'ailleurs que certains médecins ont dit « S'il l'a, c'est qu'il a été exposé. » Mais comme j'étais à l'hôpital, si je n'étais pas exposé professionnellement, c'est que même un avait dit « Il doit l'inhaler volontairement. »
Vous êtes peut-être drogué, quoi.
Donc, oui, comme un junkie, hein, exactement. Et,
mais sérieusement.
Mais sérieusement, oui. On m'a accusé de l'inhaler. Enfin, ça a été dit à ma femme et que je l'inhalais volontairement. Quand j'ai su tout ça, j'ai tapé du poing sur la table, quoi. Et puis, de toute façon, Sylvie était perturbée, mais elle disait, ça voudrait dire que... Elle l'avait dit, d'ailleurs, ce toxicologue, il ne peut pas shooter tout seul. Ça veut dire que c'est même moi qui lui en mets dans les perfusions, quoi. C'est complètement dingue. Et à partir de là, j'ai préféré partir... de cet hôpital, je suis revenu ici en Charente. Malheureusement, mon état de santé s'est pas arrangé pour autant. Pourtant, quand je suis rentré ici sur la ferme, revoir ma ferme, il y avait 63 jours que j'étais dans cet hôpital à Paris. J'allais mieux, à tel point que j'avais dit, voilà, maintenant, ça y est, c'est fini. Manque de bol, 48 heures après, je retombais dans le coma.
Si vous voulez, peut-être nous aller s'installer à la maison en ce moment.
Ou on se met à côté.
Comme vous voulez.
Parce qu'eux, ils vont parler. Ça ne vous empêche pas de nous préparer.
Mais
vous
allez, mais...
Non, mais ne parlez pas trop fort, on se met à côté.
Vous avez fini la journée de boulot? Ouais.
Ils n'ont rien fait aujourd'hui.
On se met dans notre bureau. On va peut-être fermer la porte, du coup, non? Ouais.
Ils sont utilisés au quotidien par les agriculteurs, des insecticides ou des herbicides pour protéger les cultures. Le Centre international de recherche sur le cancer en a étudié 5 et ses conclusions sont formelles. Ces 5 pesticides peuvent provoquer des cancers.
Et là, j'avais même demandé à Sylvie, j'avais dit, écoute, c'est plus question que je retourne à l'hôpital et si je dois mourir, laisse-moi mourir ici, quoi. Parce que j'étais au bout. Heureusement, elle ne l'a pas fait.
Le groupe Monsanto, qui fabrique le Roundup, l'un des produits incriminés, conteste les conclusions de l'étude. Les chercheurs, eux, maintiennent qu'il y a un risque pour les agriculteurs qui manipulent les produits et pour les consommateurs.
Go away, GMO, bye, pesticide. Today's organic, the whole world wide. We'll grow our own tomatoes, grow our own potatoes. Go away, GMO, bye, pesticide.
L'assaut de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre.
Go away, GMO, bye, pesticide.
Et 3 ans alors après cet accident, vous décidez d'attaquer Monsanto, donc le fabricant du lasso, en justice. Mm-hmm. Pourquoi vous avez décidé de faire ça?
Parce que moi, Monsanto, dans les années 90, c'était un collaborateur. Et puis qui nous avait aidé à gagner de l'argent, mais je me sentais trahi par cette société qui disait avec vous nous avançons, nous protégeons votre terre, enfin voilà, tous ces arguments publicitaires ou commerciaux que j'ai pu entendre. Donc je me sentais trahi. Je me sentais aussi par rapport aux valeurs familiales qui m'ont été transmises par mes parents. Moi je suis un patron, j'ai le collaborateur qui travaille avec moi. Alors, un tout petit patron c'est vrai, mais le monde de l'entreprise c'est pas pour se faire de l'argent, empoisonner des gens. Et là, comprenant que Monsanto m'avait trahi sur le fait que c'était plus un collaborateur et en plus était prêt à m'empoisonner et à me laisser crever, excusez-moi, dans un lit d'hôpital, m'ont fait prendre un risque où j'ai failli mourir dans mon lit d'hôpital, plus exactement, c'est ça. Ça me semblait inacceptable. Monsanto, je pense qu'au départ de la procédure, il devait jouer aux fléchettes avec ma photo dans les bureaux en disant « c'est pas ce petit paysan à Bernac qui va nous enquiquiner ». Ils n'ont pas jamais parlé vraiment d'acheter mon silence. Ils disaient « on peut s'arranger ». On peut s'arranger. C'est pour dire qu'il y a certainement beaucoup d'affaires qui ont été étouffées aussi. Alors oui, c'était de la folie de le faire, mais je disais, moi, si je me trompe dans mes décisions d'entreprise, je dois les assumer. Et je ne me voyais pas être capable d'empoisonner des gens pour gagner ma vie. J'avais déjà rencontré des agriculteurs qui avaient été empoisonnés eux-mêmes, certains qui avaient perdu la vie, et je repensais à quelqu'un, un ami, qui m'avait dit, avant de quitter cette terre, mais... si je me suis empoisonné, j'ai peut-être empoisonné d'autres personnes. Et je me disais, c'est nous qui allons être accusés, on est à la fois malades et on va être accusés. Donc tout ça me faisait dire, il n'y a pas de raison, ils ont beau être puissants, il n'y a pas de raison, il faut porter plainte contre eux. Bien sûr qu'à ce moment-là, je ne m'imagine pas la suite. Je ne m'imagine pas ce que ça allait représenter, s'attaquer à une firme telle que Monsanto. À un moment donné, vous vous retrouvez seul. Quand vous vous endormez le soir, si vous arrivez à vous endormir, c'est vous qui le supportez. Et quand vous voyez que... à un moment donné, ça peut, oui, détruire votre vie de couple, ça peut détruire votre vie familiale, ça vous coupe aussi d'une partie de vos amis. Tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est une pression énorme, énorme. Donc, je le dis et je le redis encore ce soir, si je regarde que le procès, je suis pas sûr que je le referai. Parce que c'est payé très très cher.
13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2012, 14% de hausse par rapport à l'année précédente. 21 000 employés dans 66 pays, le tout pour une entreprise créée il y a 113 ans et dont le siège social est situé à Crèvecœur dans le Missouri. Voici Monsanto, la reine des graines OGM. À lui seul, le groupe produit près de 90% des semences transgéniques mondiales. Mais il est aussi un acteur important des herbicides grâce à son produit phare, le Roundup. Ce que l'on sait, c'est que le Roundup dégrade les sols sur lesquels il est pulvérisé. Pourtant, Monsanto le présentait comme biodégradable, une publicité mensongère pour laquelle le groupe a été condamné. On sait également que les mauvaises herbes sont de plus en plus résistantes à cet herbicide. Il va donc falloir augmenter les quantités pour un résultat équivalent. Herbicides, semences et monopoles, Monsanto pourrait bien devenir notre mère nourricière.
Ce que vous avez donc gagné contre Monsanto en février 2012, C'est la première fois qu'un agriculteur gagnait, c'est une première mondiale en fait.
Effectivement, on a gagné en février 2012, c'était la première fois en France, et après on nous a dit au monde, donc privilège dont je me serais bien passé. Ils ont fait appel. C'est pendant la procédure en appel où ça a été le plus violent. Ils ont changé de cabinet d'avocat, et le deuxième cabinet d'avocat est arrivé avec une stratégie à l'américaine, où on installe le doute sur la victime, on dénigre, c'est-à-dire qu'on épluche la vie de la personne, et puis tout ça, c'est pas vrai, Monsieur François n'a pas utilisé notre produit, Monsieur François n'a pas les factures sont pas les bonnes, il a triché sur les dates, enfin, j'ai tout entendu.
C'est une première en France, le leader mondial de l'agrochimie Monsanto a été jugé hier à Lyon, responsable de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français.
L'avocat de Monsanto met, quant à lui, en doute la réalité de l'intoxication.
Monsanto n'est en aucun cas responsable, les dommages invoqués par Monsieur François n'existent pas, c'est extrêmement clair.
Et ça a été des moments d'une violence extrême, et c'est pour ça qu'en novembre 2014, alors qu'il y avait 2 ans que voilà, la décision avait été prise, je réfléchis très sérieusement et j'avertis François Laforgue dans un appel, lui dire, écoutez, j'arrête parce qu'ils en sont rendus à me faire déposer des écritures par des huissiers. Donc le matin, quand je les vois débarquer, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et Maître Laforgue m'a dit, écoutez, on m'a demandé à clôturer le dossier. En mai 2015, les plaidoiries ont lieu, ça a été une autre épreuve. Septembre 2015, le délibéré tombe et la cour d'appel confirme la première condamnation, sauf que Monsanto a fait un pouvoir en cassation le jour même, et la cour de cassation, le 7 juillet 2017, a décidé de nous renvoyer devant la cour d'appel en estimant que le fondement qui avait été retenu par la cour d'appel, à savoir défaut d'information sur l'étiquette, n'était pas le bon fondement et qu'il aurait fallu que l'on porte plainte pour produit défectueux. Alors, voilà, faut retourner au combat. Et j'étais pas en bonne forme, c'est un euphémisme, même le 7 juillet, quand j'ai connu la décision de la Cour de cassation, ça voulait dire repartir au combat, ça voulait dire bloquer une fois de plus les indemnisations.
Parce que vous n'avez pas touché un centime.
Je n'ai pas touché un centime, et moi j'ai dû, même si je n'ai pas réglé mes avocats, c'est plusieurs milliers d'euros qu'il a fallu financer.
50 000, c'est ça.
Voilà, plus de 50 000 euros, et j'ai dit, bah, non, je continue pas, quoi. Est-ce que j'ai le droit de me ruiner? Est-ce que j'ai le droit d'emmener ma famille à la faillite pour continuer ce combat? Quand j'ai retrouvé des forces, j'ai réfléchi au pour et au contre. C'est vrai qu'il y a eu un élan de solidarité parce que nous avons levé plus de 50 000 euros, ce qui me permet d'une part de payer la procédure et surtout d'envisager de continuer la procédure. Et au-delà de cette somme qui est importante, on se trompe pas, c'est les 1500 messages que j'ai reçus, des courriers que je reçois encore actuellement de soutien et ça m'a redonné confiance, et c'est vrai que j'ai décidé, moi, j'ai dit à mon avocat, ok, on continue la procédure, et le calendrier est en route, les premières conclusions de Monsanto sont tombées, prochaine échéance est au mois d'avril à Lyon, et puis j'ai repris confiance, et j'espère qu'on va gagner définitivement. D'autant plus qu'aujourd'hui, si la Cour d'appel vient à suivre ce qu'estime la Cour de cassation, à savoir donc que ce serait un produit défectueux, peut-être que cela ferait jurisprudence pour des milliers de victimes. Donc, c'est un combat qui me dépasse. Ces pesticides ont empoisonné et continuent d'empoisonner la planète, continuent de tuer des agriculteurs, tuent des enfants d'agriculteurs. Mais je pèse bien mes mots en disant tuant. Certaines leucémies infantiles, c'est l'utilisation des pesticides. Donc, ça a tué des enfants d'agriculteurs. Mais ça va en tuer d'autres. Des riverains qui sont tombés malades parce qu'ils étaient dans des zones d'épandage intensif. Et donc, on a un devoir de dire... On ne peut plus continuer comme ça. Et moi, je pensais que l'agriculture biologique, que je ne pourrais même après mon intoxication, que je ne pourrais pas sortir de ce système et qu'on ne pouvait pas faire autrement. À un moment donné, modestement et à mon échelle, si, parce que je suis agriculteur, parce que je ne suis pas un radical, tout ça, et que mes collègues, en m'écoutant, s'ils se disent « il n'y a peut-être pas tout à fait tort et qu'il faudrait se poser les bonnes questions pour demain », c'est une bonne réussite. Au-delà même de faire condamner Monsanto. Si le procès a pu servir à ça, ça me donne le sourire.
Ce sont des herbicides, voilà. Là, ce sont des fongicides.
Monsanto.
Et une petite partie d'insecticides.
Alors, pour l'ensemble de ton œuvre, Monsanto, chanson hommage. Ouais.
Je vais pas pouvoir traiter parce que je vois que le vent se lève.
Dans le jardin de René, il y a des PCB. PCB, polychlorobiphényl ou biphényl polychloré. Les PCB sont toxiques, écotoxiques, reprotoxiques. Perturbateurs endocriniens pour se faire un paquet de fric. Mais ils nous imposent rien, c'est des mecs pas bêtes. Ils inventent le Roundup et nous, on l'achète. Firme pour laquelle il faut lever le doigt.
Monsanto, je pense qu'au départ de la procédure, il devait jouer aux fléchettes avec ma photo dans les bureaux en disant c'est pas ce petit paysan à Bernac qui va nous enquiquiner.
Il y a une prise de conscience, il faut qu'il y ait une prise de conscience des agriculteurs qui travaillent en intensif, parce que certains sont aussi dans le déni, même par rapport à eux, leur maladie ou des choses comme ça. Mais il y a aussi quand même les pouvoirs publics. Est-ce qu'à votre avis, ils ont pris la mesure du danger ?
Moi, j'attends, là, en tant que président de l'association hein, Phytovictimes, j'ai participé aux états généraux de l'alimentation. Nous, notre proposition était de sortir des pesticides sur 15 ans. La FNSEA, l'UIPP, les jeunes agriculteurs se sont abstenus sur ce vote. Maintenant, le gouvernement, ça va être présenté au gouvernement. C'est eux qui vont prendre les décisions. Je suis très inquiet du ministre de l'Agriculture, hein, je ne vous cache pas, je ne le connais pas. Moi, ce que je sais, c'est que
Stéphane Travers
a été nommé donc au mois de juin. Nous lui avons adressé 2 courriers pour nous faire connaître, mais rien. Et j'entends un ministre de l'Agriculture aujourd'hui, et là je pèse mes mots, qui m'inquiète. Pour moi, aujourd'hui, il va dans le sens de l'agrochimie et non pas de l'agro-environnement. Ce que je suis convaincu, et vraiment c'est le message que je veux faire passer, c'est que de développer un modèle agricole qui se sort des pesticides va être une opportunité de croissance pour notre agriculture extrêmement importante. Ça va permettre de maintenir des agriculteurs dans nos campagnes. Ça va maintenir des emplois agricoles qui sont indélocalisables. On va avoir une agriculture extrêmement performante et qui va arrêter de coûter à la société. Et qui a vraiment un virage d'une agriculture très moderne, très pointue. L'agriculture biologique, elle est très pointue. Qu'elle va permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier. Mais comme le consommateur est prêt à consommer différemment, et c'est plus qu'une question de mode, eh bien, il y a vraiment tous les éléments qui répondent aux attentes d'un gouvernement. Protéger l'environnement, créer de l'emploi, de l'économie et de la richesse, c'est possible en prenant ce virage-là. S'ils ne l'ont pas compris, ils seront jugés par l'histoire. On sera passé à travers une opportunité de sauver notre agriculture d'un modèle qu'il faut sortir parce qu'il est obsolète. Si on n'en sort pas, ça permettra uniquement à une petite poignée d'agriculteurs d'en vivre en France, et il y aura un grand sinistre. Et on sera jugé par les générations à venir, parce qu'on va avoir un impact sur leur santé.
L'UIPP, la FNSEA n'est pas engagée sur cette voie-là non plus.
C'est inadmissible que la FNSEA aujourd'hui... Mon père doit s'en tourner dans sa tombe, parce que c'est une boîte de résonance, c'est un porte-parole pour les firmes. Ils défendent un modèle, ils ne défendent pas leurs agriculteurs, c'est fou. C'est inadmissible, c'est une trahison vis-à-vis de la profession, de la manière qu'ils agissent. Il y a un double langage, il y a un double positionnement. Et moi, j'ai vu dans les états généraux, la proximité entre les firmes et ce syndicat était pour moi insupportable. Certaines chambres d'agriculture organisent, co-organisent des réunions d'information avec les firmes. C'est quoi ce travail ? C'est inadmissible. Et j'attends impatiemment les propositions du gouvernement dans quelques semaines.
Ok, je suis un bouseux, désolé, je suis des Landes. Je sais que pour toi, ici, c'est un truc genre la Finlande. Mais Monsanto fait du lobbying au niveau européen pour me dire la façon dont je dois planter dans mon jardin. Alors moi, je ne vais pas faire les choses en cachette. Si tu touches à mon jardin, tu vas goûter à ma machette. Je suis pas contre le droit, je suis pas contre la loi. Mais c'est pas Monsanto qui me dise que je dois planter chez moi. Mais c'est pas Monsanto qui me dise que je dois planter chez moi. Je plante les graines que je veux, je mange les graines que je veux, j'échange les graines que je veux, je fume les graines que je veux. Non, non, non,
des années que les alters écolos et autres hurluberlus bio se battent contre les multinationales de l'agrochimie, et voilà que c'est quelqu'un qui se définit précisément comme pas radical qui arrive à faire plier Monsanto pour la première fois. Ça tient presque de la fable, Charlotte.
Ouais, celle du pot de terre contre le pot de fer, on peut dire, ouais, Guive. Mais au-delà de ça, Paul François est aussi l'un de ces lanceurs d'alerte, l'une de ces sentinelles de l'environnement dont le combat nous concerne tous. Et pour soutenir ce combat, ou pour en savoir plus, allez faire un tour sur le site de l'association Phytovictimes.
d'un Don Quichotte à l'autre. On part maintenant de la Charente, on va vers les Don Quichotte de la Manche, qui eux font cantine avec Antoine Chao.
Oui, les cantiniers de la Refugee Community Kitchen, RCK, et dans la famille des cantines solidaires, elle assure. Financée en grande majorité par des citoyens britanniques, des dizaines de bénévoles anglo-saxons, des volunteers, ont déjà depuis 2 ans servi plus d'1 million de repas aux migrants. Parce que malgré la destruction de la jungle, Calais reste un lieu de passage pour le Royaume-Uni et devient un enfer pour les demandeurs d'asile. Voyageurs modernes qui, dans leur odyssée, ont trouvé le soutien d'autres voyageurs nomades, les travelers, persécutés aussi à une autre époque, dans les années 90, par les autorités britanniques. Solidarity. Direction Calais donc, nous y étions déjà allés l'année dernière, à 2 reprises. Calais, le cul-de-sac, et Calais, 2 morts sur l'autoroute. Ça crée des liens.
RCK, Refugee Community Kitchen, reprend les repas Calais à Dunkerque, 2500 repas par jour.
Ça fait partie des kitchens de la jungle qui sont installés très vite après avril 2015, notamment Refugee Community Kitchen. Il y avait la Belgian Kitchen, il y avait l'English Kitchen.
L'auberge des migrants, c'est pas loin là.
Votre destination se trouve sur la gauche.
Voilà, c'est le grand hangar qui est là, donc on doit pouvoir rentrer ici. Merci. L'auberge des migrants.
Sylvain de Saturne, vous rappelle bientôt.
Une fois votre message enregistré.
Ouais, Sylvain, salut, c'est Antoine. Je viens d'arriver à Calais. Je te cherche à l'intérieur du hangar. À tout de suite.
Alors, on se retrouve, Sylvain, là, dans les locaux de l'auberge des migrants. Et vous accueillez donc la Refugee Community Kitchen, la RCK.
Oui, oui, on fait 2550 repas à Refugee Community Kitchen, qui est donc une cuisine communautaire anglaise où il n'y a que des bénévoles volontaires qui travaillent. Du coup, à l'auberge des migrants, on a un hangar qui sert de groupement associatif et une des plus grosses assos est cette association qui fait à manger tous les jours pour Calais et Dunkerque. Malgré le fait que la jungle soit partie, en fait, les migrants sont assez vite revenus et du coup, on a eu besoin d'aide. Et vu que les gens s'étaient mobilisés pendant la jungle, ils sont vite revenus quand on a eu besoin d'eux, quoi. T'as vu, je fais des phrases courtes exprès. C'est bien, hein, je progresse.
T'apprends le métier, hein. Alors là, il y a Steve qui est là, un des initiateurs de la Refugee Community Kitchen, quoi.
Ouais, exactement. Il y a 4 personnes qui se sont groupées, donc Steve, Sam, Janie et Paola, qui se sont rencontrés en fait au moment du commencement de la jungle et qui se sont dit, bah attends, faut qu'on fasse quelque chose. On s'est cuisiné, on s'est organisé des vraies distributions de bouffe. Allons-y, quoi.
Alors là, il y a toute une série de caisses en plastique avec du thé, de l'instant porridge, du couscous, des sardines. Du rice non basmati, du riz brun, des haricots, beans, beaucoup de beans. C'est une partie du stock qui est là. Steve ?
Ouais.
On peut causer un peu là ?
Hein ? Oh, it's nice to meet you. How are you ?
Fine.
Yes, and you're doing radio.
Radio report, yes.
Brilliant. Specific about kitchen.
About kitchen.
Hi, my name is Spider. My name's Jago. I'm a chef here as well. I've been here around a month. In the States, in Texas, and California, done fine dining, catering, rock and roll dive bars, all kinds of cooking.
So I'm Steve from RCK.
Oui, je suis Steve de RCK.
I come from
à l'origine, je viens de la scène techno alternative illégale en Grande-Bretagne.
Of the UK. So that's my background. I'm a traveler.
Group of people in the
UK who have been oppressed by our government
qui a subi la répression du gouvernement à cause de notre choix de vie.
We actually left the UK in 94.
Et on est venu en France vers 94 pour organiser des technivals en Europe. Les free parties, comme on dit.
That's kind of my background and where we come from. And RCK came from
voilà mon parcours. Et les gens de RCK ont des parcours similaires.
Activists and professional
des activistes,
chefs,
des chefs cuisiniers et des toughers.
And we decided one day that we couldn't sit back and do nothing.
Et on a décidé un jour qu'on ne pouvait pas rester assis à ne rien faire. Et on a voulu voir comment on pouvait aider.
Sam, who's a professional chef,
et donc avec Sam, qui est un chef professionnel, Paola, Janie, on a décidé de venir en France et de monter une sorte de cantine. Parce qu'on s'est aperçu que ce qui manquait le plus, c'était la nourriture. Parce que quand on est stressé, aux abois ou en exil, On a besoin de manger pour survivre, bien sûr, mais aussi pour pouvoir penser, réfléchir. Alors on est venu ici un jour pour voir comment c'était. Et c'est là qu'on a rencontré Sylvain et François, dès le premier jour. Et on est allé dans la jungle pour rencontrer les gens et ceux qui faisaient à manger. La cuisine des Kurdes, celle des Soudanais, des Afghans. Et nous, on a voulu faire à manger pour tous. Amener des repas dans la jungle et les distribuer dans un endroit neutre pour que tout le monde puisse venir. Donc on a demandé à Sylvain, à François et les autres si on pouvait s'installer dans un coin du hangar où on stockait les poubelles. Et en 7 jours, on a tout nettoyé, installé les cuisines et on a servi nos 500 premiers repas le 1er décembre 2015. Et depuis ce jour, nous avons servi tous les jours, sans exception, à Dunkerque et à Calais, avec en ce moment une moyenne de 2500 repas par jour. Et vous pouvez voir ici que tout ce qui est cuisiné est frais. On n'utilise pas de produits préparés. Que des légumes frais, du riz, des haricots et des épices. Parce qu'on
ne
veut pas juste nourrir les gens, mais leur servir de bons repas, nourrissants, qui soient plus que de la nourriture. Je veux dire par là de la nourriture qui fasse sens culturellement. Que les gens à qui on la sert puissent recevoir. Ce qui est très difficile quand vous servez 10 nationalités différentes. Ce sont tous des habitudes alimentaires différentes. Certains ne mangent pas de riz, d'autres ne mangent pas de pain. Mais on utilise beaucoup d'épices, 25 épices et aromates différents que l'on change chaque jour dans les recettes. Donc il faut gérer toutes ces différences culturelles, ce qui est à la fois intéressant, mais une gageure aussi, que la nourriture soit à la fois bonne et accessible. Et les plats sont à 90% végétaliens, véganes, surtout parce que c'est plus facile en termes d'hygiène, ça pose moins de problèmes.
Alors, il y a une dizaine de marmites qui sont en train de chauffer sur des trépieds qui sont alignés, tout ça avec de la musique, parce que c'est quand même des gens qui viennent beaucoup du monde de la musique, des festivals.
Je m'appelle Jacob, je suis bénévole avec l'association RCK, Refugee Community Kitchen. Je suis à Calais depuis 15 mois en fait.
Toi tu viens d'où Jacob ?
Moi je suis anglais, je viens de Nottingham.
Qui vient ici cuisiner alors ?
Nous avons toujours une chef professionnelle parce que nous pensons que c'est très important de fournir un service de qualité, quoi. Nous ne voulons pas juste donner de la nourriture pour nourrir, nous voulons donner de la nourriture qui est délicieuse. Donc nous avons toujours un chef professionnel. Les autres viennent de partout. La plupart sont les Anglais parce que c'est une association anglaise. Mais c'est aussi les bénévoles de partout en Europe.
Je viens de Birmingham, en Angleterre. Je suis étudiante et je suis venue avec des amis parce que j'avais une semaine de vacances. Et comment ne pas venir aider ? J'ai 20 ans. On fait du bon travail, mais évidemment, plus il y a de volontaires, plus il y a de gens qui seront nourris.
Des bacs d'oignons, des bacs de courgettes, des bacs de poivrons, ça s'active de toutes parts. Et si on coupe le pain,
This is the soup, and we're just spicing it up now, just seasoning it before we serve it. Make sure it all tastes as good as we hope it does.
Donc il y a le jeune chef là qui a mis du curry et des épices dans la dizaine de marmites qui sont en train de mijoter là, dans la Refugees Community Kitchen à Calais. Hi.
My name is Ruth.
Je m'appelle Ruth.
I'm actually a music teacher.
Je suis professeur de musique.
Qu'est-ce que vous faites ?
I'm chopping.
Mais là, j'épluche.
Oh,
Je crois que je vais faire un curry.
Vous préparez un curry?
Enfin, je ne sais pas. Je suis venue et j'épluche. En tout cas, la nourriture est très bonne.
Et vous venez d'où?
Je viens du Royaume-Uni. Je suis venue cette fois-ci, mais j'étais déjà venue avant. Je suis venue avec deux amis cette fois, pour une semaine. J'ai vraiment honte de mon propre pays, où l'on ne fait rien. Enfin, pas rien, mais on n'aide pas les gens qui sont coincés à Calais. Et je me sens mal par rapport à ça, comme beaucoup de gens. Heureusement, j'avais le temps de venir ici. Avant, j'étais volontaire dans des camps de réfugiés. Mais là, c'est quelque chose d'immédiat. Vous ne pouvez rien faire si vous avez faim. Et c'est quelque chose de primordial de donner à manger aux gens qui sont affamés.
Un bénévole empêché de donner à manger aux migrants par un policier. Un autre se fait arracher son portable alors qu'il est en train de filmer.
Juin 2017.
Voilà le quotidien des bénévoles ces dernières semaines à Calais. L'association en charge des repas ne peut pas faire sa distribution.
RCK Distribution. Nous comprenons que c'est important pour les volontaires de savoir où la nourriture que nous préparons va. Si vous êtes volontaire avec RCK, nous essayons au mieux de vous proposer d'aller une fois par semaine faire la distribution.
Tous les jours, deux fois par jour, RCK va distribuer de la nourriture. Et ils en donnent aussi à une association qui s'appelle Utopia 56, qui est assez bien connue en France, qui travaille avec nous étroitement et qui fait des distributions à d'autres endroits, qui sont des distributions un peu plus petites. Il y a des distributions où justement on va retrouver qu'une communauté afghane, une autre où on va retrouver qu'une communauté érythréenne, une ou une autre où ça va se mélanger, une en ville. La plus grosse distribution, en fait, c'est rue des Verrotières, c'est dans la zone industrielle qui est juste à côté de l'ancienne jungle. Et c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où ça se mélange le plus, en fait. Donc là c'est là où on va aller pour un peu voir le coucher de soleil sous la pluie. À Calais, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont dans la, excuse-moi l'expression, mais la queue de comète de la migration. C'est-à-dire ils ont soit plus d'argent, soit ils sont carrément déboutés, soit ils savent qu'ils vont se faire dubliner dans un pays où ils n'ont vraiment pas envie d'aller.
Ils vont se faire dubliner,
ouais. Oui. Tu vois, ils vont être renvoyés dans le pays d'origine en Europe.
Et c'est en train de se durcir en ce moment, quoi.
Exactement, le premier pays qui a pris leurs empreintes, ils sont censés repartir là-dedans. Donc du coup, c'est un peu flippant pour eux. Et ils préfèrent aller en Angleterre parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vivre illégalement plus facilement qu'en France ou d'autres pays.
Donc là, c'est la Verrotière, hein, c'est ça ?
Voilà, nous sommes rue des Verrotières. Donc c'est une zone industrielle comme il y en a un peu partout en France. Alors c'est là où tout se passe. Il y a des distributions d'eau qui sont faites par la Vie Active, des distributions de bois de chauffage, tout ça.
Alors c'est quand même un terrain vague sous deux pylônes haute tension. Il y a de la gadoue partout et il y a tous les bénévoles qui s'activent. Là il y a deux camionnettes qui servent, il y a trois camionnettes qui servent à manger. Et des centaines de migrants qui sont là, qui s'approchent et qui font la queue pour se servir à manger. C'est des conditions difficiles quand même.
C'est terrible. On distribue la nourriture ici, mais on n'a pas le droit d'installer des abris. La préfecture interdit les chapiteaux, les tentes, quoi que ce soit qui permette de mettre les gens à l'abri, au chaud pour manger. On peut juste donner des chaussures, des chaussettes, des habits. Avec la nourriture, c'est tout. Alors, le repas est bon, mais est-ce que vous pouvez imaginer de dormir, de vivre ici? Moi, je ne peux pas l'imaginer. C'est vraiment choquant. On fait de notre mieux, mais ce n'est pas suffisant, vu tout ce dont les gens ont besoin. Personne ne devrait être contraint de vivre comme ça dans un pays occidental moderne. C'est choquant ici, mais c'est encore plus choquant que le gouvernement du Royaume-Uni ait fermé ses portes. C'est la pire des choses.
Vous avez faim ?
Ah ouais, je vais bien manger un petit peu, ouais.
Un repas pour le monsieur, s'il vous plaît.
Alors c'est quoi aujourd'hui le repas ?
Le riz. C'est toujours le riz ici.
Je me demande toujours si Calais, ça fait partie de la France en fait.
Quand on voit la violence de la police, quand on se fait taper par la police qui a tout, je pense qu'on n'est plus en France. C'est où le droit de l'homme ?
C'est l'enfer ici quoi.
Ah oh, ouais, en fait, ouais. Regardez, il pleut. On sait pas où s'abriter en fait. Ouais.
Et vous êtes dehors après, vous passez la nuit dehors ?
Je sais pas. Nous avons plus de tente puisque la police a ramassé. Nous n'avons pas de couverture. Il y a un entrepôt qui est ouvert, mais la majorité d'entre nous, on ne veut plus y aller là-bas.
Ça fait combien de temps que vous êtes à Calais, vous ?
Trois semaines.
Ouais. Et vous avez espoir de pouvoir passer ?
Certainement, je suis là. C'est mon objectif, en fait. Ouais. Je suis le nomade. Ah ouais, en fait. C'est un peu rigolo, mais... je peux dire que je suis un nomade, en fait. Ouais, le cas du Dublin et tout, je m'excuse, mais... qui a fait cette loi, puisque on tient pas contre, en fait, le côté social, le vouloir de la personne, en fait. Ça parle, au contraire, c'est en fait, lui m'appartient, il doit rester là. Alors, je suis un être humain, je dois décider là où je veux.
Est-ce que vous êtes dublinais, vous, c'est ça ?
Ah ouais, c'est la majorité d'entre nous, je suis pas le seul, en fait. Et, on était dans des pays, mais là, on se sent pas chez nous, en fait. Alors qu'un Français peut acheter un ticket, se déplacer partout et on ne pose pas la question s'il veut rester ou pas, partir en fait. Le choix, on n'a pas. Donc on doit... Le choix qui nous reste, c'est l'Angleterre, c'est tout.
D'accord. Bon courage.
Merci monsieur.
Pour ne pas dire à sa mère qu'il dort par terre, Abby n'a pas téléphoné, Abby a appris à se taire. Abby ne peut pas se laver grâce au sous-préfet. Abby n'a pas changé d'habit, Abby peut se gratter. Abby apprend le français dans les rues de Calais. Il sait déjà dire nique ta mère et abat la frontière. Abby était bien caché, mais Abby s'est fait réveiller par matraque et gazage qui chante allez, dégage.
François Guénoc, l'auberge des migrants, bénévole depuis janvier 2014.
Alors là, dernièrement, là, il y a eu les déclarations donc, de Gérard Collomb sur le fait qu'il fallait durcir quelque part la politique d'accueil, ou plutôt développer une politique d'expulsion, d'éloignement des Dublinés, etc. Vous le sentez, vous, sur le terrain, cette volonté quand même de durcir la politique vis-à-vis des migrants ?
Oui, et ce n'est pas seulement des déclarations, il y a eu des circulaires extrêmement fortes qui ont été envoyées au préfet et qui sont apparemment suivies. Nous, à Calais, on est habitués, je veux dire, les consignes qui ont été données, elles sont appliquées de fait à Calais depuis longtemps, c'est-à-dire arrêter les gens, les mettre en centre de rétention pour prendre le temps de vérifier leur statut et éventuellement les déporter. Il y a eu régulièrement, les médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais il y a eu régulièrement des départs d'avions ici du petit aérodrome de Marc vers des pays étrangers. Apparemment, ça s'est arrêté, mais bon, là, c'est une situation qu'on connaît nous déjà à Calais, c'est-à-dire une énorme pression pour décourager les migrants de rester ici. Depuis la destruction du camp, on a retrouvé une situation qui était celle d'avant le camp, c'est-à-dire des gens qui s'installent là où ils peuvent, dans plusieurs endroits, dans des bois, dans des bâtiments abandonnés, etc. Avec quand même une situation qui est bien pire qu'avant, puisqu'il y a cette chasse permanente de la police qui, dès qu'elle trouve une tente, y compris des objets personnels, les fait enlever par les services municipaux. L'objectif du gouvernement, la finalité du gouvernement étant d'essayer de décourager les gens de rester près de la frontière. Mais cette frontière-là attire de toute façon, enfin bloque les gens, et l'Angleterre est qu'à 30 km. Et il ne faut pas oublier aussi que depuis quelques mois et quelques années, mais surtout quelques mois, la France refuse d'enregistrer les demandes d'asile des Dublinés, c'est-à-dire des gens qui ont laissé leurs empreintes dans le pays d'arrivée, c'est-à-dire la Grèce, ou l'Italie ou la Bulgarie. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'autre solution pour les gens que de tenter leur chance en Grande-Bretagne. Je finis en disant qu'on a aussi des gens qui se découragent. Ils veulent demander l'asile en France. C'est tellement dur, c'est tellement long, ils sont à la rue. que finalement ils atterrissent à Calais, ils tentent leur chance pour aller en Grande-Bretagne. Puis on a quelques idées sur cette cuisine. Par exemple, on aimerait bien créer, il suffirait d'ajouter une salle de classe et une petite cuisine pédagogique, on aimerait bien créer une école de formation de cuistots. On sait que les migrants qui arrivent ont des bonnes chances de s'insérer dans les restaurants, de trouver un travail dans les restaurants, dans les bars, etc. Et si on pouvait créer ici une petite école pour les gens qui... une petite ou une grande école, pour les migrants qui obtiennent des papiers, ça serait aussi une façon de valoriser cette cuisine. On est aux normes maintenant, on pourrait travailler pour les cantines scolaires de Calais, pourquoi pas. On va en parler à la maire de Calais.
Ah, c'est pas gagné, hein. Merci à Sylvain de Saturne, Aurore, Steve, Sissi et toute la RCK Team, dont vous pouvez devenir l'un des volunteers. Utopia 56, c'est l'auberge des migrants, mettent aussi la main à la pâte si vous préférez être bénévole.
C'était Comme un bruit qui court, retrouvez-nous la semaine prochaine à 16h et pour l'instant vous avez entendu sur France Inter, il est 17h.